Interview.
2 pour l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5 et sur 101.7 sur Luc Andiwa. L'émission est ensuite mise en podcast sur le site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui, au studio, nous sommes en compagnie d'Isabelle Peloux. Bonjour.
Bonjour.
Et de Laura Grivet. Bonjour.
Bonjour.
Toutes deux, vous êtes ici pour nous annoncer la prochaine fête des hommes à main qui aura lieu le 18 juin et avec un sous-titre « Réenchantons le monde de demain ». Un vaste programme. Hein. Et donc pour ça, il y aura des rendez-vous, des tables rondes, des concerts aussi. Et puis certainement un hommage rendu aussi à Pierre Rabhi avec Cyril Dion. On va amener tout ça en détail. Alors cette fête des hommes à main, effectivement, l'heure est venue de réenchanter nos vies, comme vous titrez. Comment vous allez procéder?
Alors, réenchanter le monde, évidemment, on n'a pas la solution. Hein, sinon, on serait très content. Justement, on va se mettre entre humains pour réfléchir à notre future humanité. Et entre humains de toute génération, c'est un petit peu le point d'orgue de cette journée-là. La dernière fête des Amanins, le thème, c'était avec Pablo Servigne et Nance Thomaset, ça avait été sur de quoi devons-nous faire le deuil pour pouvoir redémarrer. Et donc la prise de conscience de cette inquiétude climatique et de ce réchauffement climatique, de ce dérèglement qui pointe son nez, voilà, qu'il fallait passer par un moment de dépression, de... voilà, faut avaler la pilule, elle est amère et c'est pas facile. Mais une fois qu'on a fait ça, c'est pour agir. Et donc là, sur cette fête-là, on a envie de passer au mode action. Et maintenant, on ferait quoi? Et donc, on va inviter plusieurs générations. Donc, il y aura des adolescents et puis des plus anciens. Et ensemble, on va essayer de réfléchir. Ça serait quoi le monde d'après si on l'invente et si on a envie d'avoir le moral pour pouvoir y aller?
Je rappelle, Isabelle, vous êtes donc fondatrice de l'école des Colibris. Et comme pour Laura Grivet, donc, vous êtes responsable commerciale et de communication des Amanins. Et donc, vous invitez les jeunes. Et donc, il y aura ce samedi 18 une cérémonie d'ouverture avec Cyril Dion et vous-même sur cet hommage dédié à Pierre Rabhi et à Michel Valentin que vous pourriez présenter.
Alors Pierre Rabhi effectivement est inspirateur du projet puisque c'est sa rencontre avec Michel Valentin qui était un chef d'entreprise qui avait gagné beaucoup d'argent dans son travail d'une façon excessivement classique que nous dénonçons aujourd'hui, mais à l'époque c'était comme ça qu'on fonctionnait. Et donc il était bien embêté parce qu'il avait tout cet argent, il disait mais que en faire pour ne pas détruire la planète quoi. Et c'est la rencontre avec Pierre Rabhi qui leur a donné ensemble l'idée de faire un centre de vacances pour accueillir des personnes et qui soit en agroécologie. Voilà, Pierre est décédé au mois de décembre et Pierre a continué à soutenir le projet sur cette dynamique-là. Michel est décédé il y a maintenant 10 ans. Et donc l'hommage va être commun aux deux personnes puisque Michel, c'est très important à savoir, il y a peu de gens qui l'ont retenu, mais dans l'histoire des Amanins, c'est quand même le virage d'un chef d'entreprise qui a décidé de faire don de son argent à un projet écologique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Amanins appartiennent à l'association des Amanins puisque Michel Valentin a construit l'ensemble du projet et a fait don à la société civile de façon à ce que ça retourne auprès de l'humain et que l'humain s'en occupe.
Vous-même êtes arrivé dans cette aventure au début, dès le début.
Oui, là, moi j'étais la compagne de Michel Valentin, donc je suis arrivée au début du projet et quand on a pensé éducation, puisque les deux phrases du projet c'était « Quelle planète laisserons-nous nos enfants et quels enfants laisserons-nous à la planète ?» Moi j'étais déjà enseignante, formatrice pour les équipes enseignantes autour de l'écologie relationnelle et quand ils ont dit ces deux phrases, j'ai dit « Ben, très intéressant, moi je vous aide à monter les classes découvertes » et rapidement, j'ai eu l'idée un jour leur dire, mais si on faisait une école, ils m'ont dit, mais vas-y, c'est très bien, on fait une école. Donc à l'époque, c'était assez facile de faire des écoles. C'est plus compliqué aujourd'hui. Donc nous, on a pu le faire. Et en 2014, l'école a été reconnue par l'Éducation nationale, ce qui était très intéressant, important pour nous. Parce que faire reconnaître l'école, c'était ensuite insuffler ces idées-là au plus proche de tous les enfants dans toutes les autres écoles. Donc il fallait qu'on soit reconnu par l'institution de façon à pouvoir déborder et influencer éventuellement ceux qui avaient envie et qui étaient en recherche sur les questions d'écologie relationnelle.
On peut peut-être présenter ce qu'est l'écologie relationnelle aux auditeurs.
Alors rapidement, c'est en fait dans les méthodes d'apprentissage, il y en a une qui est inspirée et qui marche très bien, donc c'est tous les mouvements Freinet, de Crowley, Oury, qui est autour de la démarche expérimentale, c'est-à-dire que pour trouver quelque chose, il faut se mettre en position de chercheur. Et une fois que je suis chercheur, je me pose des questions, j'émets des hypothèses, et là je vais faire des expériences pour vérifier mes hypothèses et j'en tire un nouveau savoir. Et c'est comme ça qu'on apprend le mieux, c'est comme ça que ça reste. Donc à l'école du Colibri, on utilise beaucoup cette méthode, donc qui ne vient pas de nous, hein. Nous on n'a fait que s'inspirer d'autres méthodologies. Par contre, on s'est rendu compte que quand on applique cette méthode, ça demande à beaucoup travailler en groupe. Et au début des Amanins, ça c'était la grande mauvaise surprise, on avait beau travailler avec un Pierre Rabhi qui nous faisait réfléchir bien haut avec un idéal qu'on pourrait mettre à 3 mètres de haut, ben on tombait d'autant plus fort en bas puisque relationnellement c'était compliqué. Entre humains, on se rendait compte qu'on n'y arrivait pas très bien. Donc on s'est dit, il faut qu'à l'école, on leur donne les outils que nous on apprend en tant qu'adultes, on va les transformer pour enfants. Donc on a mis 3 temps en place dans la classe, et on va dire que c'est vraiment ça la spécificité de notre pédagogie, c'est que la coopération, on la travaille en tant qu'objet. Voilà. Donc, on va faire des ateliers philo pour apprendre à s'écouter, à formuler sa pensée, à être dans le discernement et la tolérance. On va faire des réunions de bien vivre ensemble où les enfants vont apprendre à mener une réunion avec des règles de sociocratie pour aller le plus possible souvent au consentement, exprimer une demande, faire une proposition, être capable de dire si une proposition nous va ou pas, donc donner son avis, enfin voilà, être dans un véritable travail de démocratie, de citoyenneté. Et le dernier temps, c'est un temps d'éducation à la paix. Et par les temps qui courent, avec la guerre en Ukraine, on se dit que l'éducation à la paix devrait vraiment faire partie des programmes, quoi. C'est très utile.
Je reviens aussi sur ces expérimentations hein, au départ qui ont amené leurs fruits.
Oui, tout à fait. L'école marche très, très bien. On a 2 postes reconnus par l'Éducation nationale. On rayonne de partout. On n'a pas voulu créer d'autres écoles pour la simple et bonne raison que nous, on soutient l'enseignement public. Donc, ce n'était pas l'objectif de créer plein d'écoles du Colibri. Par contre, c'était plutôt d'inspirer plein d'enseignants et d'inspirer l'enseignement public. Voilà, s'il y a des choses qu'on a mis en place qui veulent bien venir voir, on a notamment beaucoup travaillé sur l'inclusion scolaire. Et donc, on a 8 élèves en grande difficulté qui sont inclus à la journée. Et c'est la richesse de notre école, c'est cette inclusion, parce qu'ils nous apprennent beaucoup de choses et ils enrichissent les autres enfants, parce qu'ils nous obligent à parler des différences. Donc, c'est un vrai régal de travailler avec eux.
Et d'ailleurs, j'en profite pour faire un petit clin d'œil au sous-titre de la fête, en chantant le monde de demain. L'école du Colibri accueille chaque année 2 services civiques, qui nous permet aussi de pouvoir inspirer des personnes qui souhaitent se lancer dans le métier d'enseignant et qui du coup vont venir s'inspirer en fait des méthodes qui sont utilisées au sein de l'école et qui ensuite vont pouvoir dans leur métier futur aller les reproduire, aller les démocratiser, en faire parler. Donc voilà, c'est aussi notre manière de d'un petit peu insuffler de l'espoir dans le monde de l'éducation. Via justement cette éducation à la paix, à la coopération, via en fait de futurs enseignants pour qu'ils puissent eux aussi pouvoir reprendre ces outils et les faire fleurir un peu ailleurs. Donc c'est aussi, entre guillemets, savoir trouver les ambassadeurs de ce nouvel espoir, entre guillemets.
Il y avait cette question aussi par rapport, ça c'est pour l'école des Colibris, mais il y a aussi ce terrain expérimental sur l'agriculture. Et donc ça aussi c'est une question, les fruits proprement dit, quels sont-ils ?
Eh bien aujourd'hui, grâce à ce que nous a légué entre autres Pierre Rabhi, parce que c'est vraiment lui qui a aussi pu amener toute cette approche autour de l'agroécologie, on arrive à un pourcentage d'autonomie alimentaire de l'ordre de 80% sur les Amanins. Donc c'est quand même assez exceptionnel. On est quand même un écolieu aujourd'hui qui est assez intéressant parce que on ne fait pas que du maraîchage ou que de l'élevage. On est vraiment sur un mix polyculture-élevage en prenant en compte les principes de l'agroécologie qui, plutôt que d'être seulement perçus comme des pratiques agricoles, peuvent vraiment être perçus comme un mode de vie. Et couplé aussi à ce que pouvait amener Pierre autour de la sobriété heureuse, ça permet vraiment un modèle qui porte énormément de fruits. Aujourd'hui, nous, on peut nourrir en fait à 80% d'autonomie les personnes qui viennent chez nous, soit à l'année environ 33 000 repas servis, par exemple. Ça nous permet aussi ce système aussi d'association entre la société coopérative de production et l'école de pouvoir proposer une cantine aux élèves, aux enfants, qui soit accessible et qui permette d'avoir aussi des frais de scolarité qui ne soient pas exorbitants. Ça nous permet aussi de pouvoir montrer que ce format-là permet une juste rémunération aujourd'hui de nos agriculteurs qui, dans la société en général, sont parfois les plus démunis. Et on voit bien, quand on regarde l'état de santé de nos agriculteurs en France aujourd'hui, que c'est assez inquiétant. Donc, les fruits, ils sont multiples, ils sont variés et ils sont extrêmement positifs aujourd'hui.
Et pour faire le lien avec l'école, je rajouterais que la posture aux Amanins, c'est vraiment une posture de chercheur. C'est-à-dire que nous, en agroécologie, par exemple, on a introduit des principes qui sont de la permaculture. C'est le même état d'esprit. C'est-à-dire qu'on est chercheur en pédagogie, on est chercheur en maraîchage, en élevage, parce que ce ne sont jamais les mêmes animaux, le climat change, il faut tout le temps s'adapter.
Et surtout, oui, voilà, on aime à dire qu'on... On incarne une posture humble aux Amanins, c'est-à-dire qu'on ne se veut pas en tant que sachant. On est là pour transmettre, mais on n'est pas là pour transmettre en tant que grand chef ou grand gourou de je ne sais quoi. On est vraiment là pour transmettre le fruit de nos expérimentations. Donc on transmet notre propre retour d'expérience. Voilà. Et on essaye de dire aux gens, eh ben, allez-y, allez expérimenter à votre tour et n'hésitez pas à transmettre et à rendre public vos retours d'expérience parce que ça fait partie du bien commun aussi.
Alors l'expérimentation, c'est aussi l'alternance entre succès et échec. Certainement que vous avez passé des périodes de doute. Ça, c'est comment vous pouvez justement en prendre conscience, comment s'établit ce diagnostic, et comment y remédiez-vous alors?
Moi, je vais parler sur l'école. Tu parleras sur le reste des Amanins. Alors, on m'a posé cette question-là parce que je suis partie à la retraite au mois de juin. Et du coup, on m'a dit, si vous refaisiez l'école, ça serait quoi le changement? Et en fait, je me suis rendu compte qu'avec la posture de chercheur, en fait, on est tout le temps dans cet état d'esprit. C'est-à-dire qu'on est tout le temps en train d'essayer et de s'adapter. Et si ça ne va pas, on change. Donc, en fait, ça ne fait pas des grands gouffres. Ce qu'on a rencontré, c'est des difficultés humaines, principalement, et puis financières, parce qu'il fallait financer l'école, hein. Donc jusqu'à ce qu'on ait le statut en 2014. Mais chaque fois que l'envie est là et que l'humain est engagé, moi, j'ai confiance que l'argent suit. Alors après, il faut savoir aller le chercher, il faut savoir demander. Mais notre expérience, c'est que si on est vraiment très, très motivé, on arrive à trouver comment financer derrière. Voilà. Et au niveau humain, ça, c'est le plus difficile à tenir. C'est-à-dire que ça demande de l'engagement. Et ça demande de se mouiller, c'est-à-dire qu'on ne peut pas juste dire « je vais faire partie d'un projet, je veux bien avoir la philosophie du projet, être très fier de pouvoir en parler extérieur, mais par contre, si on me demande à un moment, parce que c'est en train de couler un coup de main un dimanche pour venir et que je dis non, ben, ça ne marchera pas. Il faut que je sois engagé dans le projet, il faut que je sois capable de donner plus que ce qui est marqué sur le papier. Ça ne veut pas dire que je me fais avoir par le projet et les droits du travail, ça veut dire juste que je suis engagé dans ce projet, que je le fais mien, il fait aussi partie de mes tripes et de ma... Moi, j'étais engagée en tant que citoyenne dans le projet de l'école. Voilà, il faut être engagé plus loin.
Je rebondis sur ce que vient de dire Isabelle. Nous, par exemple, à la SCOP, la Société Coopérative de Production, nous sommes des associés. C'est-à-dire que nous sommes entrepreneurs associés. Entrepreneurs salariés. Donc en fait, on a de fait un engagement de principe. On est et à la fois salarié et à la fois notre propre patron. Donc On doit s'engager. Ça doit être plus que juste un contrat de travail. Il faut qu'il y ait des valeurs, une éthique, une envie à soutenir ce projet. Et après, oui, des échecs, il y en a eu dans les expérimentations. Par exemple, il y a eu cette expérimentation de l'éolien qui a cafouillé. Et ben derrière, on se dit, bon, bah, comment est-ce qu'on peut faire autrement ? Nous, on vise à pouvoir en fait, expérimenter autour de l'autonomie énergétique. Ben, on est parti sur du solaire, qu'il soit photovoltaïque, qu'il soit thermique. On est parti sur des bâtiments éco-conçus. Bon, bah, on voit avec 20 ans de recul, ben, qu'est-ce qui tient, qu'est-ce qui ne tient pas ? Comment est-ce qu'on ferait autrement aujourd'hui ? Pareil sur l'agriculture ou sur l'élevage. Voilà, les maraîchers sont régulièrement en train de tester de nouvelles choses. On voit le maraîchage sur sol vivant. Il y a aussi cette nouvelle notion de la litière forestière qui pourrait être utilisée voilà, dans l'agriculture. Bon, il y a toutes ces choses, en fait. Ça nécessite une veille constante. Et ensuite, il n'y a pas de baguette magique. On va expérimenter sur le terrain et est-ce que notre terrain à nous est favorable à ces expérimentations-là et on en tire les fruits. Et ensuite, pour reprendre ce que disait Isabelle, il y a aussi des échecs d'un point de vue humain. Nous, on est sur une forme de gouvernance qui est dite horizontale, coopérative. Et forcément, en fait, l'humain, c'est vivant. Donc, en fait, la perfection n'existe pas. Donc, des aléas, il y en a constamment. Et on a la grande difficulté, ça va être d'avoir l'impression de toujours, en fait, remettre en question, refaire, revisiter au niveau de notre gouvernance. Et en même temps, le projet amène ça, parce que les humains qui le composent amènent ça aussi, et qu'on n'est pas sur du linéaire. Voilà.
Et donc, il y a une mémoire de cette aventure qui permet ensuite de pouvoir transmettre aussi ou prévenir des envies qui pourraient être vouées à l'échec, j'imagine. Vous êtes aussi quelque part un phare, je dirais, pour des gens qui seraient intéressés par votre technique, votre abord de l'agriculture.
Tout à fait, on est notamment, alors moi je vais reprendre surtout sur l'école, on est une mémoire, mais on est une mémoire vivante, c'est-à-dire que c'est plus la posture de chercheur qu'on essaye de transmettre et de partager. Et effectivement, on peut répondre à des tas de questions, de problématiques qu'on a rencontrées, mais cette problématique marchait pour tel ou tel enfant. Et chaque enseignant va se retrouver surpris par un nouvel enfant. De même en maraîchage, ils vont être surpris par la nouveauté du climat, puisque c'est en train de changer et que c'est plus comme avant, donc il faut s'adapter. Ben voilà, il y a des nouveaux parasites, il y a des nouveaux microbes, il y a des nouvelles choses qui arrivent. Donc ce qu'on va transmettre, c'est une mémoire, mais une mémoire pas faite pour rester fidèle à la mémoire. C'est une mémoire faite pour dire, vous inquiétez pas, c'est normal, ça bouge tout le temps. On a essayé, nous aussi on n'y est pas arrivé à 100%, continuer le chemin, ça marche. Voilà. Et c'est ça la réussite, on va dire.
Et ce qui est très intéressant, je trouve, c'est aussi de pouvoir, justement, dans cet exercice de transmission de mémoire, pouvoir être humble et pouvoir dire qu'on a fait des erreurs pour justement que ceux qui viennent apprendre puissent avoir une attention portée particulièrement sur ces points un peu critiques où nous, on est passé, on s'est peut-être pris les pieds dans le tapis pour qu'eux puissent potentiellement l'éviter. Voilà.
Ces partages d'expériences sont soit par des rendez-vous aux Amanins, ou alors est-ce que vous avez aussi édité quelques publications ?
Alors sur l'école, il y a eu plusieurs livres d'écrits. Il y en a un qui est en préparation encore, sur ça serait quoi les choses qu'on peut changer et les invariants justement de cette pédagogie aux Amanins. Il y a des formations qui sont proposées, il y a un site qui s'appelle Être Prof, sur lequel il y a beaucoup d'outils très concrets pour les enseignants qui ont été mis en ligne. Voilà, on essaye de mémoriser quand même le plus possible les outils qu'on a développés, de façon à ce que ce ne soit pas perdu et que ce qui marche puisse être transmis, parce qu'on apprend tous par imitation. Et moi, de mon côté, j'ai beaucoup imité, j'ai piqué des idées à droite à gauche, j'ai mis en place aux Amanins une forme d'éducation à la paix. Ça se trouve pas à beaucoup d'endroits. Et donc, de le mettre en ligne, ça permet à des enseignants qui ont envie de partir là-dessus de pouvoir faire des recherches. Mais on est aussi en lien avec d'autres programmes. Par exemple, Déclic Éducation, qui est très actif sur toute la CNV, fait partie de nos partenaires. On n'est pas que sur les Amanins. Il y a aussi d'autres structures avec lesquelles on s'appuie les uns les autres parce que la relation, c'est un vaste domaine et qu'il y a de quoi faire.
À la suite de cette cérémonie d'ouverture, il y a un repas, j'imagine, avant d'aborder les conférences de l'après-midi. Un repas issu de la production, j'imagine.
Oui, tout à fait. C'est un repas, comme on aime le dire, du jardin à l'assiette. Donc il y aura, comme d'habitude, en fait, une proposition de saison, parce qu'on suit le rythme des saisons, hein, vu qu'on est en autonomie alimentaire. Une assiette garnie avec une boisson, sûrement un petit dessert et puis une proposition végé ou carnée, sachant que la viande n'apparaît que très peu dans nos menus, une fois par semaine, voire des fois deux, parce que bah, justement on est sur cette constante végétarienne avec un apport de viande qui intervient peu parce que la viande ne provient exclusivement que de notre élevage.
Et voici l'heure des conférences à 14h. Donc il y aura Cyril Dion, figure emblématique aussi des Hermanins, vous-même, Isabelle Pelou, Marine Simon, que nous avons reçue dernièrement pour son livre, et Abdennour Bidar. Alors on peut peut-être présenter Abdennour Bidar, qui est-il ?
Alors Abdennour Bidar est un philosophe qui travaille notamment à l'éducation nationale. Et si on a souhaité l'inviter, c'était justement pour nous aider à réenchanter le monde. Il a écrit, après les attentats du Bataclan, un très beau livre qui s'appelle « Plaidoyer pour la fraternité ». Et en disant que si dans notre République, il nous manque quelque chose, c'est qu'il y avait trois mots associés qui sont « liberté, égalité » et qu'on a oublié d'associer fraternité. Et en fait, « liberté, égalité » ne fonctionne que s'il y a de la fraternité. Et que sans doute que une des clés de l'aventure humaine pour continuer, c'est bien de développer cette fraternité. Donc il sera là pour porter ça.
Chacun proposera sa manière justement d'agir pour réenchanter le monde. À commencer par Cyril Dion qui proposera quoi précisément ?
Bah, Cyril, c'est quelqu'un qui a déjà fait pas mal de propositions qui vont dans ce sens avec les différents films qu'il a pu produire. Le fait qu'il a été aussi à l'initiative avec Pierre Rabhi du mouvement Colibri, qui a quand même beaucoup accompagné tous ces mouvements en fait, de transition, qu'elles soient écologiques, sociales, économiques, à travers la France, et ce depuis 2006. C'est aussi un poète. Voilà, c'est un écrivain et du coup, à travers la poésie, je pense qu'il à travers la culture, voilà, il y a beaucoup de choses que l'on peut aussi faire pour réenchanter le monde de demain. Et surtout, comme disait Isabelle, ne pas oublier la fraternité, mais surtout ne pas oublier la culture aussi.
Est-ce que c'est possible de vous poser la question, à savoir quel est le constat de Monsieur Dion par rapport à la poésie d'aujourd'hui, quel est le constat de sa part sur l'utilisation ou l'abord de la poésie de nos jours ?
Alors Cyril est d'abord un poète, c'était ça son métier. Hein. Et donc je me rappelle de lui il y a quelques années quand il m'a appelé tellement fier parce qu'il avait enfin été publié en poésie. Et donc la poésie, pourquoi ? C'est parce que ça amène la dimension spirituelle. C'est-à-dire quelque chose qui nous dépasse. Pierre Rabhi, souvent, hein, disait « moi, je suis d'abord un poète voilà. ». Et donc, il y a vraiment l'idée de réenchanter le monde, parce que quelquefois, par les mots et l'association de mots, on peut faire passer une dimension qu'on ne trouve pas dans les mots eux-mêmes. Mais c'est l'association de ces mots-là qui permet cette émotion et cette compréhension.
Et puis, on peut parler de Marine Simon aussi, qui est venue présenter son ouvrage, qui s'intitule d'ailleurs...
Tout tournerons sur cette terre, nous sommes les seuls à l'ignorer.
Et donc, elle se présente comme auteure, effectivement. Ensuite, facilitatrice et formatrice en intelligence collective. Alors, ça aussi, c'est peut-être une grande lacune de nos jours, hein, cette intelligence collective.
Bah, comme le dit Marine, elle appelle à un changement de culture. Un changement de culture qui soit inspiré du vivant. C'est-à-dire que pour elle, le vivant a compris depuis des millions d'années qu'il fallait s'associer, qu'il fallait être dans quelque chose de rond, de cyclique. Et alors que l'humain a fait le choix, selon elle, de la compétitivité, un aspect très linéaire de nos manières de penser, qui va à l'encontre un petit peu de ce que nous propose le vivant. Donc, réenchanter le monde de demain, Marine sera sûrement là pour nous, nous conseiller d'aller plus en fait regarder ce qu'a à nous offrir le vivant en termes de modèles et de culture pour qu'on puisse s'en inspirer.
Ces conférences seront certainement accompagnées de débats aussi avec l'auditoire.
Et donc moi je rajouterais, il y a deux personnages qu'on n'a pas mis sur l'affiche parce qu'à l'époque nous n'avions pas leur nom. Ce sont deux anciens élèves de l'école du Colibri. Parce que nous tenons absolument, donc ce sera Uma et Marceau qui seront là, et on tient absolument à les associer parce qu'aujourd'hui, il est évident que cette question de réenchantement du monde les concerne. Et moi, j'ai bien compris qu'à l'époque où on est, il faut qu'on associe tous les humains, quelle que soit leur génération, pour parler de l'humanité. On ne peut pas simplement mettre les anciens qui vont nous dire c'est comment l'humanité. On n'y est pas arrivé, on s'est planté, on va droit dans le mur, et on a besoin tous ensemble, donc avec l'expérience des anciens, avec les jeunes et leurs espoirs, comment ensemble on va réenchanter le monde, comment ensemble on va créer ce monde dans lequel l'humain serait bien et serait plus en équité sur la planète, dans un partage des ressources, puisqu'on sait aujourd'hui qu'elles sont limitées et qu'il va falloir qu'on fasse avec ça.
Après ces moments de réflexion, arrive la fin de l'après-midi, 18h30, et c'est le début de la soirée festive avec des concerts. Alors cette soirée festive, qu'est-ce qu'on pourrait y trouver ?
Oh, et ben, tout ce qui nous permet de passer un bon moment ensemble, de faire la fête, de célébrer. En fait, c'est ceux qui voudront écouter les concerts, que ce soit le jazz manouche ou le bal des mondes, pourront le faire. Ceux qui ont envie de papillonner, comme on aime le dire, et d'aller parler à droite à gauche entre eux. Pareil, je pense qu'en fait, on vient de traverser deux années où, pour réenchanter le monde de demain, et en fait, il faut qu'on se retrouve. Donc, ce sera aussi l'occasion de le faire.
Vous parliez de papillonner. Effectivement, il y a des stands qui seront présents. On pourra trouver les stands de quelle structure, par exemple ?
Il y aura des stands de nos partenaires, des personnes qui partagent notre éthique, nos valeurs, qui permettent aussi de répondre à certains des enjeux que l'on porte, mais dont on n'a pas forcément en fait les compétences pour répondre. Donc voilà, ce sera tout un panel de partenaires. Je ne vais pas faire une liste exhaustive.
Un repas certainement aussi proposé. Voilà, ça sera la surprise hein, sur le moment. Et puis donc il y a ces concerts avec la compagnie Didier Alix Quartet, hein, donc qui proposera un jazz manouche et le bal des mondes, donc qui fera valser, hein, je crois surtout. Oui. C'est de la musique de quel style ?
Eh ben, c'est de la musique du monde entier qui nous permet de vraiment danser. Donc c'est un bal dansant vraiment.
Et pour prendre contact ou se renseigner un peu plus sur cet événement, vous avez un site internet dont on peut donner l'adresse, j'imagine, qui est donc
www.lesamanins.com.
Et puis, sur ce site, on pourra découvrir aussi toutes les activités et l'historique aussi des Amanins. Pour cette journée, il est proposé une tarification différenciée.
Les Amanins font l'effort qu'ils peuvent faire. En général, sachez qu'on ne gagne pas un centime sur ces journées. Même souvent, on a perdu de l'argent. Donc, l'idée, c'est que nous, on a mis au plus bas le tarif d'entrée. Et donc, pour les gens qui viennent pour soutenir les Amanins et pour soutenir ceux qui voudraient payer moins cher, on fait comme pour les cafés offerts, on propose aux gens de laisser de la monnaie pour faire des entrées suspendues pour ceux d'après. Voilà.
Ces plats, ces repas sont préparés avec les produits du jardin et les cuisiniers du lieu. Ça représente combien de personnes qui s'affairent à préparer cette fête ?
Alors, tout le monde est présent hein, pour organiser la fête, toute l'équipe salariée. Au mois de juin, on oscille entre 15 et 20 personnes sur les lieux. Et après, on fait un appel à bénévoles pour nous donner un coup de main, parce qu'il y a tant de choses à faire pour la fête. Et puis, c'est aussi une manière de pouvoir venir découvrir les Amanins encore sous un autre jour. Donc, c'est aussi l'occasion pour nous de faire un appel à bénévoles si la journée... du 17, même la journée du 16 ou du 15 et la journée du 18, vous avez envie en fait de venir soutenir les Amanins par une action bénévole pour nous permettre de préparer cette belle fête. N'hésitez pas à prendre contact avec nous.
Le contact, c'est
C'est une adresse contact arrobase, non, les pardon, c'est info@lesamanins.com, info au singulier.
Je vous remercie en tout cas Laura Grivet et Isabelle Peloux de nous être venues parler de la fête des Amanins du 18 juin. Et ça se déroulera précisément à...
aux Amanins, à La Roche-sur-Grane, au 1324 route de Cray.
Je vous souhaite une bonne soirée.
Merci.
Au revoir.